Alain Jakubowicz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, mais également président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, depuis janvier 2010. Vous avez été réélu l'an passé pour 3 ans. Comme avocat, vous êtes surtout avocat d'affaires, mais le grand public vous connaît aussi, car vous étiez une des figures des procès Barbie, Touvier et Papon. Vous défendiez le consistoire israélite de France. Vous étiez aussi l'avocat de Karim Benzema dans l'affaire de la sextape, ça vous fait rigoler. Et entre-temps, vous avez dit l'avoir quitté et lui a dit vous avoir remercié, on verra ça après. Mais d'abord, on va parler de l'étrange climat qu'il y a en ce moment en France. La parole raciste et antisémite, selon vous, se propage-t-elle? Ou est-ce la présidentielle qui exacerbe les tensions?
Je crois que c'est un petit peu les deux. Mais il est clair qu'il y a une montée de l'expression raciste et antisémite dans notre pays, que la boîte de Pandore s'est libérée d'une certaine façon. On peut pratiquement le dater de l'époque de la présidence de M. Sarkozy, sans jeter l'anathème évidemment sur l'intéressé. Il y a une libération de la parole. Et c'est vrai que les bonnes vieilles blagues de café du commerce sur les négros, les youpins, les bougnoules, etc., on en avait fini. Et malheureusement, cela est revenu sur le devant de la scène.
Et pardon de dire les choses comme ça, mais ça vient de gens très bien. Par exemple, l'affaire de la caricature antisémite d'Emmanuel Macron qui a été représentée sur le site des Républicains avec un nez crochu, un cigare et en haute forme, telle l'image du juif dans les années 30. Réaction?
Oui, il ne faut pas tout mélanger. Là, effectivement, c'est l'exploitation à des fins politiciennes, avec des images qui sont absolument surréalistes. Alors, soit celui qui est à l'origine de cela est dans l'idéologie, ce que je ne crois pas, évidemment, ça serait terrible, soit son imaginaire est tel qu'il n'a vu aucun rapport avec les expositions de 40, je suis partout, etc. Ce qui serait terrifiant.
Oh, dis donc, la faucille rouge, référence au Parti communiste qui coupe le cigare, il ne l'a pas inventé.
Ben écoutez, voilà, je crois d'ailleurs que des poursuites disciplinaires ont été engagées à l'intérieur du parti en question.
Alors vous-même, vous n'êtes pas à l'abri des controverses. C'était le 15 février dernier, le mois dernier, dans l'émission de Pascal Praud sur iTélé. Il était question d'une pétition lancée par diverses personnalités qui étaient scandalisées par les affaires Traoré et de Théo, le jeune arrêté par la police. Et vous aviez remarqué que les signataires de la pétition avaient des noms, je vous cite, « pas très français ». Avec le recul, je vois que vous souriez. Vous persistez ou vous retirez ce que vous aviez présenté comme une plaisanterie?
Mais c'était pas une plaisanterie, c'est du deuxième degré.
Quand on se marre, c'est une plaisanterie.
Ça procède de la malhonnêteté intellectuelle ambiante.
Expliquez.
Lorsque je dis ces noms sont pas très français.
Il y avait Omar Sy, Yannick Noah, Eric Cantona, Olivier Py, Jean Benguigui, Smaïn.
Oui, mais ce qui procède de la malhonnêteté intellectuelle, c'est d'isoler ces trois mots de tout mon discours. En fait, je dis ça pour tourner en dérision. Je dis le problème, ce n'est pas ceux qui ont signé, c'est ceux qui n'ont pas signé. Alors, je vais vous dire, maintenant, lorsque je dirais « ces noms ne sont pas très français », je dirais « lol », pour que tout le monde puisse comprendre. Enfin, où sommes-nous? Dans quelle société vivons-nous où je suis obligé, moi, de me justifier de ne pas être raciste? Quand tout mon discours, au cours de cette même émission, consiste précisément à combattre le racisme qui est l'œuvre, je dirais, de 40 années de ma vie.
Et attention, moi je dis ça aussi avec des pincettes, et surtout avec le nom que vous portez. Quand même, si quelqu'un peut se permettre de dire que les noms ne sont pas français, quand il s'appelle Jakubowicz, tout
évidemment,
va bien.
Et d'ailleurs, Pascal Praud, qui était le journaliste à la manœuvre, ne s'y est pas trompé en disant « Vous avez tout à fait raison, maître Jakubowicz ».
À propos de l'antiracisme, vous dites que notre logiciel est resté bloqué aux années 80. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Bien que malheureusement, les associations antiracistes, qui sont plus si nombreuses, je veux parler des vraies, n'ont pas évolué comme la société a évolué. Vous savez, moi je suis un vieux combattant antiraciste, les choses étaient simples. Vous savez, c'était avant la chute du mur de Berlin, d'une certaine façon. Il y avait les gentils et il y avait les méchants. Comme dans les films américains.
Vous voulez dire qu'en gros, les méchants, c'était les blancs, l'extrême droite et les cathos.
Voilà, d'une certaine façon.
Sauf que désormais...
De droite, effectivement.
Ouais.
Et les victimes, eh ben, c'était ceux qui appartenaient à toutes les minorités. C'était les arabes, les juifs, les noirs, les homosexuels, etc. C'était consubstantiellement des victimes. Et on n'a pas vu évoluer les choses. On n'a pas vu arriver un racisme inter- et intra-communautaire. Les feuges contre les beurres contre les blacks, etc. Et en fait, c'est peut-être aujourd'hui, à l'exception effectivement de l'extrême droite, celui qui aujourd'hui fait le plus mal. Et on voit d'ailleurs dénoncer à juste titre cet antisémitisme qui sévit dans un certain nombre de milieux. Aujourd'hui, on peut être antiraciste tout en étant antisémite. C'est absolument stupéfiant.
Alain Jakubowicz avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Alain Jakubowicz avec nous, avocat et également président de la LICRA. Vous avez pris des positions qui ont parfois étonné, qui ont parfois choqué et pour lesquelles également vous avez été applaudi. Parfois la même position. Exemple, un tweet de vous qui a fait polémique en novembre dernier. Le concept d'islamophobie est une imposture. Qu'entendez-vous par là?
Le racisme anti-musulman dans notre société est une réalité qu'il convient de combattre avec la dernière énergie. C'est une réalité, c'est difficile d'être musulman aujourd'hui en France. Mais dans le terme d'islamophobie que l'on jette à la figure de tout le monde, il y a une volonté claire qui est une volonté de l'islam politique, de l'islam radical, qui consiste à jeter l'anathème sur quiconque critiquerait, non pas les musulmans en tant que tels, mais la religion islamique, ce qui est parfaitement autorisé. Je persiste et je signe.
Dans un portrait de Libération qui vous est consacré, vous dites avoir de l'empathie, Alain Jakubowicz, pour les Palestiniens, mais aussi pour Israël, mais aussi, je vous cite, pour les jeunes oppositions antisémites. C'est la troisième partie, évidemment, qui m'a étonné.
Non.
En quoi de l'empathie?
Je suis pas sûr que ça soit exactement ce que j'ai dit.
C'est exactement ce que vous avez dit. En tout cas, c'est exactement ce qui est écrit.
Non.
Avec les guillemets dans le journal. C'est pour ça que ça m'a frappé. Alors, d'où ma question.
Non. Je n'ai aucune empathie, clairement, pour les jeunes ou les moins jeunes oppositions antisémites. En revanche, effectivement, je pense qu'il faut s'intéresser au pourquoi et au comment. Et s'interroger effectivement sur la souffrance des autres et ne pas toujours s'auto-centrer sur ses propres souffrances, s'auto-centrer sur sa propre histoire, s'auto-centrer sur ses propres victimes. Et c'est bien tout le sens de mon combat qui est un combat universaliste.
Vous dites, Alain Jakubowicz, que vous vous sentez, je vous cite, « juif sans Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je crois que ça se résume. Vous savez, je suis un adepte de Woody Allen. Woody Allen le dit mieux que moi. Il dit « Dieu n'existe pas et nous sommes son peuple ».
Vous ne croyez en rien, mais si je suis bien informé, vous allez à la synagogue, vous avez même une petite plaque à votre nom à la synagogue. Il ne me viendrait pas l'idée d'aller à l'église si je ne croyais pas en Dieu.
Oui, mais je crois que c'est la particularité du judaïsme, précisément. Je vais à la synagogue une à deux fois par an. Je dirais par atavisme, mais la plaque en question, pour moi, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que mon grand-père paternel a quitté l'Allemagne nazie en 1933, fuyant l'avènement d'Hitler. Il est arrivé dans le pays des Lumières, la France. On disait dans son village natal, heureux comme Dieu en France, comme vous le savez.
Ouais.
Et effectivement, comme lui avait une culture religieuse, il est allé à la synagogue de Lyon, cette grande synagogue, où d'ailleurs, en tant que juif étranger, on l'avait mis derrière un pylône. Il y avait les juifs français qui étaient devant, et puis les juifs étrangers, on les mettait plutôt de côté. Vous savez, cette forme de racisme a toujours existé de partout également. Et il se trouve que mon grand-père, qui a eu trois fils, dont mon père, dont l'un qui est devenu un médecin assez éminent, etc., avait mis son nom à lui. Il y avait quatre places sur cette rangée, son nom à lui et le nom de ses trois fils. Voilà. Et quand la famille est devenue une famille assez, bon, disons, plus influente à Lyon, etc., on a proposé à mon grand-père de rejoindre le milieu, l'endroit où il était visible, et a voulu rester derrière son pylône, là où il était arrivé. Et pour moi, il est important que les plaques de mon grand-père, de mon père, aujourd'hui décédé, de mes oncles, demeurent à leur place. Voilà, c'est une forme d'attachement au lieu, à la synagogue, mais pas au Dieu.
Autre chose qui m'a frappé, contrairement à beaucoup de confrères, vous dites qu'il y a des gens que vous ne pourriez pas défendre. Vous dites pas de pénal, pas de toxicomane, pas de pédophile.
Oui, ça c'est une vieille histoire personnelle. Il y a un certain nombre de choses, je n'y arrive pas. Et moi je considère que tout homme qui est poursuivi a le droit d'être défendu le mieux possible. Et je ne peux pas donner le mieux pour des gens avec lesquels je n'adhère pas. Et pour moi, les toxicomanes, j'ai connu ça dans ma jeunesse, lorsque je faisais du pénal, c'est des gens qui sont capables de renier père et mère, c'est des gens qui ne sont pas fiables, en raison de la maladie, je dirais, dont ils sont atteints, moi je n'y arrive pas. Lorsque je sens que je ne suis pas au taquet, que je ne serai pas le meilleur, que je ne sortirai pas mes tripes pour aller sortir mon client, alors je préfère effectivement ne pas y aller du tout.
Alain Jakubowicz avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Alain Jakubowicz avec nous, avocat, mais également président de la LICRA. Est-il vrai que votre père voulait être avocat, mais qu'il dirigeait une usine de fuseaux de ski ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pourquoi il est jamais devenu avocat, dit-on ? Parce qu'il y a eu la guerre et qu'il n'a pas pu faire d'études. En tout cas, ça fait partie de, je dirais, de la mémoire familiale.
Mais moi, ce qui m'amuse, c'est les fuseaux de ski. Pourquoi il a pas fait les anoraks, les chaussettes, il a fait que les fuseaux?
Mais parce que il était ce que l'on disait pantalonnier. À l'origine, il fabriquait des pantalons.
C'est pas
et
vrai.
Il se trouve qu'il a rencontré un homme qui s'appelle Jean Laurent, qui a inventé le tissu Elastis. Et avec Jean Laurent, eh bien, mon père a été un des premiers à fabriquer avec ce tissu Elastis des fuseaux.
Attention, question d'actualité. Est-il vrai que votre fille travaille à votre cabinet?
Oui, elle est même associée. Elle est l'une des jeunes associées de mon cabinet.
Parce que c'est dans l'actu. Est-ce qu'elle travaille vraiment? Est-ce que c'est fictif? Est-ce qu'elle vous rembourse deux tiers des salaires que vous lui donnez?
Non, d'abord, elle n'a pas de salaire parce qu'elle est avocate. Ce sont donc des honoraires. Et c'est une excellente avocate en matière de beaux commerciaux.
Oh, dites donc, il y a quelque chose qui m'a frappé. Je suis allé sur le site de votre cabinet d'avocat, dont vous allez me dire le nom, parce que je ne suis pas capable de le citer comme ça.
Jakubowicz, Malegui et associé.
Un texte qui m'a intrigué. François Fillon a-t-il écrit quelques éléments de réponse aux questions que vous vous posez ? Mmh. À qui vous adressez-vous et pourquoi ce texte sur le site ? C'est pas vous qui défendez François Fillon ?
Non, mais il se trouve que j'ai une clientèle au cabinet, nous avons une clientèle qui est orientée vers le droit des affaires et nombre de clients se posaient des questions et nous posaient des questions. Donc j'ai rédigé ce texte en disant voilà, voilà les réponses que le professionnel que je suis est en mesure de vous apporter.
Alors je l'ai lu évidemment, le texte ne défend pas François Fillon mais ne l'accable pas non plus.
Non. Non, c'était pas le rôle, c'est un texte technique. En disant, est-ce que François Fillon se voit appliquer un sort inhabituel dans le traitement de son dossier ? Ma conclusion est oui, incontestablement.
Sur la rapidité.
Les délais qui sont appliqués à ce dossier sont des délais qui sont hautement inhabituels.
Je précise pour les gens qui vous entendent que vous n'êtes pas militant républicain.
Non.
On dit même que vous êtes plutôt à gauche.
Oui, les gens de gauche disent que je suis de droite, les gens de droite disent que je suis de gauche. Donc voilà, donc ça me situe parfaitement.
Est-il vrai que les seuls puissants que vous fréquentez sont les archevêques?
Non.
Ah bon?
Non, mais non. Mais c'est vrai que j'aime parler avec tout le monde. On dit cela parce qu'il se trouve que lorsque la République m'a honoré de la Légion d'honneur, j'ai demandé à un cardinal de me remettre ses insignes de la Légion d'honneur. C'était un petit clin d'œil.
Est-il vrai que vous connaissez par cœur tous les horaires de TGV Paris-Lyon?
Non, bon, c'est pas très difficile. Il y en a toutes les heures et par moment toutes les demi-heures. Donc c'est quand même pas très compliqué. Mais oui, il se trouve que depuis que le TGV existe, je suis un énorme consommateur.
Ça a impressionné la journaliste du JDD. Est-il vrai, c'est vous qui l'avez dit, j'ose pas le croire, que vous délectez de la lecture de conneries, de trucs de midinette?
Oui, ça peut arriver, oui. Ça libère la tête, oui. On n'est pas toujours obligé de lire des essais philosophiques. J'ai l'alarme facile.
Mais c'est quoi des romans de midinette? Vous avez ajouté, dans le même papier, des histoires avec le prince, la princesse. Ils se marièrent, ils eurent de beaux enfants.
Oh, écoutez, c'est comment elle s'appelle? Catherine Pancol. Voilà, ouais. C'est ce genre de choses. Je trouve que ça fait du bien, de temps en temps, une fois par an, de s'aérer la tête avec ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé les crocodiles avec les yeux, je sais pas comment. J'avais beaucoup aimé, oui. Bah, je n'ai pas honte de le dire, oui. Je trouve ça sympa.
C'est pas un truc de midinette, c'est péjoratif de dire ça.
Oh, bah, écoutez, les midinettes, c'est pas du tout péjoratif. Disons que ce sont des romans faciles. Voilà, des choses qui sont agréables à lire, où on ne se prend pas la tête et où les histoires sont belles et les personnages intéressants.
Attention, parce que là encore, c'est comme au tribunal, on retrouve ce que vous avez dit. Vous avez dit une fois, je suis un jouisseur.
Oui.
Mais ça se manifeste comment ?
Je suis épicurien, j'aime la vie. J'aime la vie et j'ai la chance que jusqu'à ce jour, j'espère que ça continuera, elle me l'a plutôt bien rendu. Oui, quand le terme de jouisseur est un terme peut-être excessif, mais oui, épicurien, j'aime bien manger, j'aime bien vivre, j'aime la musique, j'aime la vie, j'aime la... Voilà, mais j'aime pas le show-off, je préfère 100 fois lorsque j'ai un peu de temps, passer la soirée avec des copains plutôt que d'aller dans les cocktails et les pinces-fesses, voilà.
Merci beaucoup, Alain Jakubowicz, d'être venu nous voir.
Merci à vous et merci de votre invitation.